Jesus Christus.
Une nouvelle visite pour le président français ce vendredi au Liban. Depuis Beyrouth, Emmanuel Macron a rencontré les nouvelles autorités à la tête du pays et annoncé la tenue prochaine d'une nouvelle conférence internationale pour soutenir le pays du Cèdre. Nous retrouverons notre correspondant sur place au début de ce journal. Un accord de partenariat stratégique signé ce vendredi entre la Russie et l'Iran. Le président iranien était l'hôte de Vladimir Poutine au Kremlin. Un nouveau chapitre important dans les relations bilatérales entre les deux pays. Dans ce journal également, le bras de fer qui se poursuit au Pakistan entre l'ancien Premier ministre Imran Khan et l'actuel gouvernement. Khan qui a été condamné aujourd'hui à 14 ans de prison. Et puis nous irons au Mexique où une grande campagne de désarmement a été lancée par la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum avec l'appui de l'Église catholique locale.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, Emmanuel Macron en visite au Liban ce vendredi. Le président français, le premier chef d'État à se rendre dans le pays du Cèdre depuis l'élection la semaine passée du nouveau président Joseph Aoun et la nomination du premier ministre Nawaf Salam il y a 3 jours. Lors d'une conférence de presse à l'issue de sa rencontre au palais présidentiel de Baabda, Emmanuel Macron a annoncé l'organisation à Paris dans les prochaines semaines d'une nouvelle conférence internationale de soutien au Liban. Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalife.
Organisée à l'occasion d'une visite de Joseph Aoun à Paris dans les prochaines semaines, la conférence internationale sera consacrée à la reconstruction du Liban après la guerre dévastatrice avec Israël. Emmanuel Macron s'est dit par ailleurs optimiste sur l'application du cessez-le-feu et a évoqué une dynamique positive sur ce plan. Il a aussi appelé au retrait total de l'armée israélienne du sud du Liban et insisté sur le fait que seule l'armée libanaise devrait être autorisée à détenir des armes. Le président français a affirmé que la France œuvrera pour la délimitation de la frontière terrestre avec Israël. Emmanuel Macron a rencontré le chef du Parlement Nabih Berri, la plus importante figure chiite de l'État, à l'occasion d'une réunion élargie en présence de Joseph Aoun et du premier ministre sortant Najib Miati. La rencontre avec Nabih Berri est importante car le leader chiite craint une marginalisation de sa communauté après les changements des rapports de force survenus au Liban et en Syrie et il hésite à participer au gouvernement en gestation. Dans la matinée, Emmanuel Macron s'est offert un bain de foule dans le quartier emblématique de Jemaïse qui renaît de ses cendres après l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Également présent aujourd'hui dans au Liban depuis hier soir, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, venu pour une visite de solidarité avec le peuple libanais, selon ses termes. Il s'est rendu aujourd'hui dans le sud du Liban pour y rencontrer les casques bleus de la FINUL. Et moins de 10 jours avant la date butoir pour la mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, le patron de l'ONU a exhorté l'État hébreu à mettre fin à ses opérations dans la région. Une nouvelle visite d'envergure à Damas, aujourd'hui celle de Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale. Il s'est entretenu avec Ahmad al-Sharel, le leader du groupe islamiste HTS, une visite à l'invitation des nouvelles autorités syriennes, la Cour pénale internationale, qui vient examiner comment elle peut soutenir la Syrie dans son travail de justice après les crimes commis sous le régime de Bachar al-Assad. L'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, finalement signé ce vendredi par le cabinet de sécurité israélien. Le ministère de la Justice de l'État hébreu a publié une première liste de 95 prisonniers palestiniens qui seront libérés à partir de dimanche dans un premier échange avec des otages israéliens. Parmi les 33 otages figurent 2 Français, Ofer Calderon et Oad Yalaomi. Leurs familles ne savent pas s'ils sont vivants. L'Iran et la Russie font un pas supplémentaire l'un vers l'autre. Le président iranien Massoud Pezeshkian était à Moscou ce vendredi où il a été reçu par Vladimir Poutine. Les deux hommes ont signé un partenariat stratégique qui renforce notamment leur coopération militaire, un nouveau chapitre dans les relations bilatérales russo-iraniennes. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
C'est l'achèvement d'un processus de rapprochement opéré depuis plusieurs années en raison notamment des multiples régimes de sanctions qui frappent la Russie comme l'Iran. En signant ce partenariat stratégique global, Vladimir Poutine a estimé que les relations entre Moscou et Téhéran étaient désormais basées sur les principes d'égalité, de respect et d'assistance mutuelle. L'occasion d'affirmer l'opposition des deux pays à tout diktat de puissances étrangères, pour ne pas dire occidentales. Le président russe s'est en outre félicité du fait que les positions des deux pays coïncident sur la plupart des questions de politique étrangère. Moscou a mis en avant la coopération énergétique et la construction par Rosatom de la centrale nucléaire de Bouchehr, qui à ses yeux apporte une contribution significative au renforcement de la sécurité énergétique de l'Iran. Le président iranien en a profité pour appeler à un règlement politique du conflit en Ukraine, estimant que les hostilités et la guerre n'étaient pas de nature à constituer une solution au problème. Mais la signature d'un tel accord à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, dont on sait l'hostilité envers Téhéran, sert peut-être à signaler à Washington que les deux parties se soutiennent et se coordonnent. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Au Pakistan, le chef de l'opposition Imran Khan a été condamné aujourd'hui à 14 ans de prison pour corruption. Ancien Premier ministre, l'ancienne star du cricket, est en conflit ouvert avec l'armée et le gouvernement de Shehbaz Sharif, qu'il accuse d'avoir manipulé les élections législatives l'année dernière. Sa popularité et son incarcération érodent la légitimité du système politique, alors que l'inflation et le chômage explosent au Pakistan. Les explications de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
Imran Khan est en détention depuis un an et demi. Il reste poursuivi dans plusieurs dizaines d'affaires et sa condamnation est la dernière d'une longue série qu'il a envoyé en prison pour de nombreuses années. Il est accusé d'avoir reçu un pot de vin d'un promoteur immobilier lorsqu'il était Premier ministre entre 2018 et 2022. Ses partisans dénoncent un acharnement judiciaire monté par l'armée et le gouvernement pour l'écarter du pouvoir. Son parti, le PTI, était arrivé en tête des législatives en 2024 malgré une féroce répression, mais il n'avait pas pu former le gouvernement. En prolongeant l'enfermement d'un homme politique très populaire, le gouvernement de Shehbaz Sharif alimente la frustration d'une partie de la jeunesse et des classes urbaines avides de changement. De quoi consolider l'image d'Imran Khan qui se pose en sauveur face à la misère ambiante. Le pays traverse une grave crise économique, la pauvreté est au plus haut, la population se débat dans les pénuries d'énergie et l'inflation. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Un nouveau cri d'alarme lancé par le HCR concernant les combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Pas moins de 237 000 personnes ces deux dernières semaines ont été déplacées en raison des violences des groupes armés, déplore le Haut Commissariat pour les réfugiés. Des violences qui entravent l'acheminement de l'aide humanitaire. Le HCR qui se dit alarmé par l'aggravation de la violence. Et puis avant-hier, les églises catholiques et protestantes de RDC avaient lancé un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble afin justement de faire revenir la paix dans la région des Grands Lacs. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. La violence endémique continue de ravager le Mexique. Ainsi, la conférence épiscopale s'est associée au gouvernement fédéral mexicain pour tenter d'y mettre un terme en lançant une campagne de désarmement sur la base du volontariat. Les Mexicains peuvent laisser leurs armes dans la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, monnayant une forte somme allant de 15 000 à 24 000 pesos, de 750 à 1 200 euros, et avec la garantie de ne pas encourir de poursuites judiciaires. À Mexico, Diego Calmar.
Abandonner son arme en échange d'argent, c'est la nouvelle initiative du gouvernement mexicain. Déposer ses armes dans des boîtes de collecte placées symboliquement sur le parvis de la célèbre basilique Notre-Dame de Guadalupe à Mexico. 80 000 pesos, soit quasiment 200 euros en échange d'un pistolet, jusqu'à 1 200 euros pour une mitraillette. Le programme Oui au désarmement, Oui à la paix a été lancé vendredi dernier et l'épiscopat mexicain s'associe donc à cette opération. Pour rappel, plus de 35 000 personnes sont tuées chaque année au Mexique, principalement au sein du conflit entre cartels et les autorités mexicaines. Depuis 2021, le Mexique a porté plainte plusieurs fois contre les fabricants d'armes américains qui l'accusent de pratiques commerciales négligentes en matière de circulation d'armes à feu. Ce désarmement est surtout une opération de communication, mais il représente bel et bien la volonté de la présidente Claudia Sheinbaum, en poste depuis 3 mois et demi, de réduire l'insécurité qui gangrène le Mexique. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
À Cuba, 127 prisonniers ont été libérés entre mercredi et jeudi, selon l'accord annoncé en début de semaine. Une amnistie qui a pu avoir lieu grâce aux efforts de la diplomatie du Saint-Siège et qui répond directement à une exhortation du pape François en cette année sainte. Et puis aux États-Unis, à quelques jours de la fin de son mandat, Joe Biden, lui, a commué 2500 peines pour des délits non violents liés à la drogue, un record. Joe Biden qui affirme être le président américain ayant accordé le plus de grâce et de commutation de peine. Et puis la cérémonie d'investiture de Donald Trump est déplacée à l'intérieur du Capitole, apprend-on à l'instant, en raison du froid polaire qui règne sur la capitale américaine. Cette investiture aura lieu lundi prochain. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. Demain soir à 18h, vous retrouverez notre émission hebdomadaire Vox Mundi. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.